À 6 heures du matin, Cérizé va voir Petit Claud. Demain à midi, Doublon peut préparer son coup. Il prendra notre homme, j'en réponds, lui dit le Parisien. Je dispose de l'une des ouvrières de Mademoiselle Clergé, comprenez-vous? Après avoir écouté le plan de Cérizé, Petit Claud courut chez Cointet. Faites en sorte que ce soir, Monsieur du Hautois se soit décidé à donner à Françoise la nue propriété de ses biens. Vous signerez dans 2 jours un acte de société avec ses chars. Je ne me marierai que 8 jours après le contrat. Ainsi, nous serons bien dans les termes de nos petites conventions. Donnant, donnant. Mais épions bien ce soir ce qui se passera chez Madame de Sénonches, entre Lucien et Madame la Comtesse du Châtelet, car tout est là. Si Lucien espère réussir par la préfète, je tiens la ville. Vous serez, je crois, garde des Sceaux, dit Cointet. Et pourquoi pas, Monsieur de Perronnet les biens, dit Petit Claud qui n'avait pas encore tout à fait dépouillé la peau du libéral. L'état douteux de Mademoiselle de La Haye lui valut la présence de la plupart des nobles d'Angoulême à la signature de son contrat. La pauvreté de ce futur ménage marié sans corbeille avivait l'intérêt que le monde aime à témoigner. Car il en est de la bienfaisance comme des triomphes. On aime une charité qui satisfait l'amour-propre. Aussi, la marquise de Pimentel, la comtesse du Châtelet, Monsieur de Sénonches et 2 ou 3 habitués de la maison firent-ils à Françoise quelques cadeaux dont on parlait beaucoup en ville. Ces jolies bagatelles réunies au trousseau préparé depuis 1 an par Zéphirine, aux bijoux du parrain et aux présents d'usage du marié, consolèrent Françoise et piquèrent la curiosité de plusieurs mères qui amenèrent leurs filles. Petit Claud et Cointet avaient déjà remarqué que les nobles d'Angoulême les toléraient l'un et l'autre dans leur Olympe comme une nécessité. L'un était le régisseur de la fortune, le subrogé tuteur de Françoise. L'autre était indispensable à la signature du contrat comme le pendu à une exécution. Mais le lendemain de son mariage, si Madame Petit Claud conservait le droit de venir chez sa marraine, le mari s'y voyait difficilement admis et il se promettait bien de s'imposer à ce monde orgueilleux. Rougissant de ses obscurs parents, l'avoué fit rester sa mère à Mansle où elle s'était retirée. Il la pria de se dire malade et de lui donner son consentement par écrit. Assez humilié de se voir sans parents, sans protecteur, sans signature de son côté, Petit Claud se trouvait donc très heureux de présenter dans l'homme célèbre un ami acceptable et que la comtesse désirait revoir. Aussi vint-il prendre Lucien en voiture. Pour cette mémorable soirée, le poète avait fait une toilette qui devait lui donner, sans contestation, une supériorité sur tous les hommes. Madame de Sénonches avait d'ailleurs annoncé le héros du moment, et l'entrevue des 2 amants brouillés était une de ces scènes dont on est particulièrement friand en province. Lucien était passé à l'état de lion. On le disait si beau, si changé, si merveilleux, que les femmes de l'Angoulême noble avaient toutes une velléité de le revoir. Suivant la mode de cette époque, à laquelle on doit la transition de l'ancienne culotte de bal aux ignobles pantalons actuels, il avait mis un pantalon noir collant. Les hommes dessinaient encore leur forme au grand désespoir des gens maigres ou mal faits. Et celle de Lucien était apollonienne. Ses bas de soie gris à jour, ses petits souliers, son gilet de satin noir, sa cravate, tout fut scrupuleusement tiré, collé pour ainsi dire sur lui. Sa blonde et abondante chevelure frisée faisait valoir son front blanc, autour duquel les boucles se relevaient avec une grâce cherchée. Ses yeux pleins d'orgueil étincelaient. Ses petites mains de femme, belles sous le gant, ne devaient pas se laisser voir dégantées. Il copia son maintien sur celui de De Marsay, le fameux dandy parisien, en tenant d'une main sa canne et son chapeau qu'il ne quitta pas. Et il se servit de l'autre pour faire des gestes rares, à l'aide desquels il commenta ses phrases. Lucien aurait bien voulu se glisser dans le salon, à la manière de ces gens célèbres qui, par une fausse modestie, se baisseraient sous la porte Saint-Denis. Mais Petit Claud, qui n'avait qu'un ami, en abusa. Ce fut presque pompeusement qu'il amena Lucien jusqu'à Madame de Sénonches au milieu de la soirée. À son passage, le poète entendit des murmures qui jadis lui s'étaient fait perdre la tête et qui le trouvèrent froid. Il était sûr de valoir à lui seul tout l'Olympe d'Angoulême. « Madame, dit-il à Madame de Sénonches, j'ai déjà félicité mon ami Petit Claud, qui est de l'étoffe dont on fait les gardes des Sceaux, d'avoir le bonheur de vous appartenir, quelque faible que soient les liens entre une marraine et sa filleule. » Ce fut dit d'un air épigrammatique très bien senti par toutes les femmes qui écoutaient sans en avoir l'air. Mais pour mon compte, je bénis une circonstance qui me permet de vous offrir mes hommages. Ce fut dit sans embarras et dans une pose de grand seigneur en visite chez de petites gens. Lucien écouta la réponse entortillée que lui fit Zéphirine en jetant un regard de circumnavigation dans le salon afin d'y préparer ses effets. Aussi, put-il saluer avec grâce et en nuançant ses sourires, Francis du Hautois et le préfet qui le saluèrent. Puis, il vint enfin à Madame du Châtelet en feignant de l'apercevoir. Cette rencontre était si bien l'événement de la soirée que le contrat de mariage, où les gens marquants allaient mettre leur signature, conduit dans la chambre à coucher, soit par le notaire, soit par Françoise, fut oublié. Lucien fit quelques pas vers Louise de Nègrepelisse. Et avec cette grâce parisienne, pour elle, à l'état de souvenir depuis son arrivée, il lui dit assez haut « Est-ce à vous, madame, que je dois l'invitation qui me procure le plaisir de dîner après-demain à la préfecture ?»« Vous ne la devez, monsieur, qu'à votre gloire, » répliqua sèchement Louise, un peu choquée de la tournure agressive de la phrase méditée par Lucien pour blesser l'orgueil de son ancienne protectrice. « Ah, madame la comtesse, » dit Lucien d'un air à la fois fin et fat, « il m'est impossible de vous amener l'homme s'il est dans votre disgrâce. » Et sans attendre de réponse, il tourna sur lui-même en apercevant l'évêque qu'il salua très noblement. « Votre grandeur a été presque prophète, » dit-il d'une voix charmante, « et je tâcherai qu'elle le soit tout à fait. Je m'estime heureux d'être venu ce soir ici puisque je puis vous présenter mes respects. » Lucien entraîna Monseigneur dans une conversation qui dura 10 minutes. Toutes les femmes regardaient Lucien comme un phénomène. Son impertinence inattendue avait laissé Madame du Châtelet sans voix ni réponse. En voyant Lucien l'objet de l'admiration de toutes les femmes, en suivant de groupe en groupe le récit que chacune se faisait à l'oreille des phrases échangées où Lucien l'avait comme aplati en ayant l'air de la dédaigner, elle fut pincée au cœur par une contraction d'amour-propre. S'il ne venait pas demain après cette phrase, quel scandale, pensa-t-elle. D'où lui vient cette fierté? Mademoiselle des Touches serait-elle éprise de lui? Il est si beau. On dit qu'elle accourut chez lui à Paris le lendemain de la mort de l'actrice. Peut-être est-il venu sauver son beau-frère et s'est-il trouvé derrière notre calèche à Mantes par un accident de voyage? Ce matin-là, Lucien nous a singulièrement toisés, Sixte et moi. Ce fut une myriade de pensées. Et malheureusement pour Louise, elle s'y laissait aller en regardant Lucien qui causait avec l'évêque comme s'il eût été le roi du salon. Il ne saluait personne et attendait qu'on vînt à lui, promenant son regard avec une variété d'expressions, avec une aisance digne de De Marsay, son modèle. Il ne quitta pas le prélat pour aller saluer Monsieur de Sénonge, qui se fit voir à peu de distance. Au bout de 10 minutes, Louise n'y tint plus. Elle se leva, marcha jusqu'à l'évêque et lui dit « Que vous dit-on donc, Monseigneur, pour vous faire si souvent sourire ?» Lucien se recula de quelques pas pour laisser discrètement Madame du Châtelet avec le prélat. « Ah, Madame la Comtesse, ce jeune homme a bien de l'esprit. Il m'expliquait comment il vous devait toute sa force. »« Je ne suis pas ingrat, moi, Madame. » dit Lucien en lançant un regard de reproche qui charma la comtesse. Entendons-nous, dit-elle en ramenant à elle Lucien par un geste d'éventail. Venez avec Monseigneur par ici. Sa grandeur sera notre juge. Et elle montra le boudoir en y entraînant l'évêque. Elle fait faire un drôle de métier à Monseigneur, dit une femme du camp Chandour assez haut pour être entendue. Notre juge, dit Lucien en regardant tour à tour le prélat et la préfète. Il y aura donc un coupable? Louise de Nègrepelisse s'assit sur le canapé de son ancien boudoir. Après y avoir fait asseoir Lucien à côté d'elle et Monseigneur de l'autre côté, elle se mit à parler. Lucien fit à son ami l'honneur, la surprise et le bonheur de ne pas écouter. Il eut l'attitude, les gestes de la pastade en tant que crédit quand elle va dire « O patria ». Il chanta sur sa physionomie la fameuse cavatine del Rizzo. Enfin, l'élève de Coralie trouva moyen de se faire venir un peu de larmes dans les yeux. « Ah, Louise, comme je t'aimais !» lui dit-il à l'oreille sans se soucier du prélat ni de la conversation au moment où il vit que ses larmes avaient été vues par la comtesse. « Essuyez vos yeux, vous me perdriez ici encore une fois » dit-elle en se retournant vers lui par un aparté qui choqua l'évêque. « Et c'est assez d'une !» reprit vivement Lucien. « Ce mot de la cousine de Madame d'Espard sécherait toutes les larmes d'une Madeleine. Mon Dieu ! J'ai retrouvé pour un moment mes souvenirs, mes illusions, mes 20 ans, et vous menez... » Monseigneur rentra brusquement au salon en comprenant que sa dignité pouvait être compromise entre ses deux anciens amants. Chacun affecta de laisser la préfète et Lucien seuls dans le boudoir. Mais un quart d'heure après, Sixte, à qui les discours, les rires et les promenades au seuil du boudoir déplurent, y vint d'un air plus que soucieux et trouva Lucien et Louise très animés. « Madame, dit Sixte à l'oreille de sa femme, Vous qui connaissez mieux que moi Angoulême, ne devriez-vous pas songer à Madame la Préfète et au gouvernement ?»« Mon cher, » dit Louise en toisant son éditeur responsable d'un air de hauteur qui le fit trembler, « je cause avec Monsieur de Rubempré de choses importantes pour vous. Il s'agit de sauver un inventeur sur le point d'être victime des manœuvres les plus basses, et vous nous y aiderez. Quant à ce que ces dames peuvent penser de moi, vous allez voir comment je vais me conduire pour glacer le venin sur leur langue. » Elle sortit du boudoir, appuyée sur le bras de Lucien, et le mena signer le contrat en s'affichant avec une audace de grande dame. « Signons ensemble ?» dit-elle en tendant la plume à Lucien. Lucien se laissa montrer par elle la place où elle venait de signer, afin que leurs signatures fussent l'une auprès de l'autre. « Monsieur de Sénonches, auriez-vous reconnu Monsieur de Rubempré ?» dit la comtesse en forçant l'appartenant chasseur à saluer Lucien. Elle ramena Lucien au salon, elle le mit entre elle et Zéphirine sur le redoutable canapé du milieu. Puis, comme une reine sur son trône, elle commença, d'abord à voix basse, une conversation évidemment épigrammatique à laquelle se joignirent quelques-uns de ses anciens amis et plusieurs femmes qui lui faisaient la cour. Bientôt, Lucien, devenu le héros d'un cercle, fut mis par la comtesse sur la vie de Paris, dont la stature fut improvisée avec une verve incroyable et semée d'anecdotes sur les gens célèbres. Véritable friandise de conversation dont sont excessivement avides les provinciaux. On admira l'esprit comme on avait admiré l'homme. Madame la comtesse Sixte triomphait si patamment de Lucien, elle en jouait si bien, enfin m'enchantait de ses choix, elle lui fournissait la réplique avec tant d'à-propos, elle quêtait pour lui des approbations par des regards si compromettants, que plusieurs femmes commencèrent à voir dans la coïncidence du retour de Louise et de Lucien un profond amour victime de quelque double méprise. Un dépit avait peut-être amené le malencontreux mariage de Châtelet, contre lequel il se faisait alors une réaction. « Eh bien, » dit Louise à 1 h du matin et à voix basse à Lucien avant de se lever, « après-demain, faites-moi le plaisir d'être exact. » La préfète laissa Lucien en lui mimant une petite inclination de tête excessivement amicale, et alla dire quelques mots au comte Sixte qui chercha son chapeau. « Si ce que Madame du Châtelet vient de me dire est vrai, mon cher Lucien, comptez sur moi, » dit le préfet en se mettant à la poursuite de sa femme qui partait sans lui, comme à Paris. « Dès ce soir, votre beau-frère peut se regarder comme hors d'affaires. »« Monsieur le comte me doit bien cela, » répondit Lucien en souriant. « Eh bien, nous sommes fumés, » dit Cointet à l'oreille de Petit Claude, témoin de cet adieu. Petit Claude, foudroyé par le succès de Lucien, stupéfait par les éclats de son esprit et par le jeu de sa grâce, regardait Françoise de La Haye dont la physionomie, pleine d'admiration pour Lucien, semblait dire à son prétendu « Soyez comme votre ami. » Un éclair de joie passa sur la figure de Petit Claude. Le dîner du préfet n'est que pour après-demain. Nous avons encore une journée à nous, dit-il. Je réponds de tout. Eh bien, mon cher, dit Lucien à Petit Claude à 2 h du matin en revenant à pied, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Dans quelques heures, Séchard sera bien heureux. Voilà tout ce que je voulais savoir, pensa Petit Claude. Je ne te croyais que poète et tu es aussi Lauzun, c'est être deux fois poète, répondit-il en lui donnant une poignée de main qui devait être la dernière. Ma chère Ève, dit Lucien en réveillant sa sœur, une bonne nouvelle. Dans un mois, David n'aura plus de dettes. Et comment? Eh bien, Madame du Châtelet cachait sous sa jupe mon ancienne Louise. Et elle-même, plus que jamais, et va faire un rapport au ministère de l'Intérieur par son mari en faveur de notre découverte. Ainsi, nous n'avons pas plus d'un mois à souffrir, le temps de me venger du préfet et de le rendre le plus heureux des époux. » Ève crut continuer un rêve en écoutant son frère. En revoyant le petit salon gris où je tremblais comme un enfant il y a 2 ans, en examinant ses meubles, les peintures et les figures, il me tombait une taie des yeux. Comme Paris vous change les idées. « Est-ce un bonheur ?» dit Ève en comprenant enfin son frère. « Allons, tu dors, à demain, nous causerons après déjeuner, » dit Lucien.